VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. 5 gendarmes ont été radiés de l'armée ivoirienne après l'attaque de l'école de police d'Abidjan perpétrée la semaine dernière, a annoncé le chef d'état-major général des armées. Hier, tous ces gendarmes seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes, a précisé le général Touré, ajoutant sa détermination à extirper des rangs. Tous ceux qui n'honorent pas l'institution militaire, des centaines de coups de feu avaient été tirés à Abidjan pendant la nuit de mercredi à jeudi dernier par des membres des forces de sécurité en colère à moins de 48 heures de l'ouverture des Jeux de la francophonie dans la capitale économique ivoirienne. L'armée nigériane affirme avoir mené une opération qui a abouti hier à la libération de tous les membres d'une équipe d'exploration pétrolière enlevée dans le nord-est du Nigeria. Ils étaient tombés dans une embuscade attribuée à Boko Haram. Jacques Aristide.
Les corps de 9 soldats et d'un civil tués ont également été récupérés au cours de cette opération militaire. C'est la compagnie pétrolière du Nigeria qui avait fait part hier du kidnapping des 10 géologues de l'université de Maïdougouri. Il a mené des travaux de recherche sur l'exploration pétrolière dans le bassin du lac Tchad. Ils avaient été enlevés près du village de Jibi à Magoumeri dans l'état de Borno après un affrontement entre les agents de sécurité qui les accompagnaient et de présumés combattants de Boko Haram. L'équipe de prospection, qui comptait au total une trentaine de personnes, travaillait dans cette région depuis un mois. D'après un travailleur humanitaire, les insurgés se tenaient à l'affût et avaient creusé des trous, des fosses et des tranchées. Toujours selon lui, certains des véhicules sont tombés dans les trous et immédiatement les combattants de Boko Haram ont commencé des tirs nourris sur les véhicules. Le groupe qui mène une insurrection sanglante depuis 2009 utilise les enlèvements comme une arme de guerre.
Le Togo aux portes du Commonwealth, tractations diplomatiques et missions d'experts s'enchaînent dans l'ancienne colonie française ayant entamé les démarches pour rejoindre l'espace anglophone du Commonwealth sur les pas du Rwanda. Le dossier du Togo est en bonne voie et nous sommes optimistes pour la suite du processus, a déclaré à l'AFP Robert Ducey, le ministre togolais des Affaires étrangères. Ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, qui compte environ 7 millions d'habitants, s'est lancé depuis 2014 dans le processus d'adhésion dans l'organisation de 52 pays qui regroupent en grande partie les anciens protectorats et colonies britanniques. Le cas du Togo devrait être examiné lors de la prochaine réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth en Grande-Bretagne. Ce sera en avril 2018.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville sur le 101.9 FM.
Le Congo-Brazzaville a répondu à la France au sujet de la situation dans la région du Poule. Paris s'était dit préoccupé par ce qui se passe dans cette région, appelant au rétablissement rapide des conditions pour la tenue des élections dans toutes les circonscriptions. Morgane Guiriec.
Thierry Mungala, ministre de la Communication, assure que Brazzaville a été responsable et prudent en reportant les élections législatives et locales dans le Poule. Selon lui, l'objectif est d'y tenir les élections dans les délais raisonnables, mais pour y arriver, il faut un niveau de sécurité suffisant. La région du Poule, voisine de Brazzaville, a replongé dans la violence depuis la réélection du président Denis Sassou Nguesso en mars 2016. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, a annoncé la victoire du PCT au pouvoir aux élections locales du 16 juillet. Le Parti congolais du travail devrait contrôler la quasi-totalité des conseils départementaux et municipaux avec près de 450 sièges. Aucun chiffre n'a été avancé sur le taux de participation comme pour le premier tour des législatives. Le PCT a été crédité de 70 sièges sur les 151 de la future Assemblée nationale. Le second tour des législatives est prévu dimanche.
Au Cameroun, toujours aucune nouvelle de la trentaine de disparus depuis le naufrage du 16 juillet d'un navire de l'armée dans l'Atlantique. Reportage Edwin Kinzeka, récit Lionel Gaïma.
Parti de Limbé, dans le sud du Cameroun, le Mundemba, navire ravitailleur du bataillon d'intervention, se rendait dans la péninsule de Bakassi lorsqu'il a chaviré. 3 rescapés et 2 corps ont été repêchés. Les parents de 32 personnes portées disparues attendant toujours les explications. Par parents, amis et connaissances tentent de les réconforter, comme c'est le cas dans cette maison d'un quartier de Yaoundé. Elle appartient à Alex Alenga, un soldat de 32 ans figurant parmi les disparus en mer. Son frère Théophile attend désespérément de savoir ce qu'il est advenu de lui.
C'est inacceptable qu'à ce jour, on soit face à ce drame et qu'ils ne puissent pas répondre aux questions. Donc qu'ils fassent davantage leur travail et surtout qu'ils nous donnent l'information au fur et à mesure que ces informations-là soient disponibles. Il faudrait qu'on retrouve ces corps et on rende compte au peuple camerounais de ce qui s'est vraiment passé pour qu'on ne puisse pas retrouver ces corps-là jusqu'à présent.
Dans un communiqué publié le jour de l'accident, le ministère camerounais de la Défense a fait savoir que les circonstances de l'accident n'ont pas encore été élucidées. Depuis, il n'y a plus eu d'autres communiqués. Toutefois, le colonel Henri Bellinga, commandant de la garde côtière de la brigade d'intervention rapide, a expliqué que le mauvais temps entrave les opérations de recherche.
Actuellement, les opérations de rescue continuent. Il s'agit de récupérer les corps à l'intérieur du bateau qui est à 35 mètres de profondeur. Le bateau a sombré avec 34 personnels. On va sortir autant qu'on pourra. Je voudrais dire à tous que c'est un accident, ça peut arriver et c'est arrivé. Tous les moyens sont mis en œuvre pour pouvoir récupérer tous les personnels qui sont au fond de l'eau et le BIR est en activité couplé avec la marine.
Le colonel Bellinga a aussi souligné que les allégations selon lesquelles le Mundemba aurait été attaqué par des pirates sont sans fondement. Le Mundemba a transporté des équipements et du matériel lourd pour les travaux de construction d'une base militaire de Bakassi. D'ailleurs, les travaux ont été interrompus après l'accident. La péninsule de Bakassi a été pendant plusieurs années source de conflits entre le Cameroun et le Nigeria, du temps où elle était sous administration nigériane. Une décision de la Cour internationale de justice reconnaissant la souveraineté camerounaise sur cette zone riche en pétrole a permis sa rétrocession en 2008 au gouvernement camerounais.
L'Égypte s'est dotée mercredi d'un Conseil national pour la lutte contre le terrorisme, alors que le pays est le théâtre d'attentats djihadistes visant les forces de sécurité et la minorité chrétienne. Depuis que l'armée a destitué en 2013 le président Mohamed Morsi, les autorités égyptiennes sont confrontées à une insurrection djihadiste, notamment dans le nord de la péninsule du Sinaï, où le groupe État islamique multiplie les attaques contre les forces de l'ordre. Le président palestinien Mahmoud Abbas a soutenu aujourd'hui les appels des autorités musulmanes à retourner prier dans la mosquée Al-Aqsa sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est après le retrait par Israël de toutes les mesures de sécurité mises en place à la mi-juillet aux entrées de ce site sensible. Les prières auront lieu avec l'aide de Dieu à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, a dit Mahmoud Abbas lors d'une conférence de presse peu de temps après l'annonce par les autorités musulmanes de la fin d'un boycott de près de 2 semaines. Le président Donald Trump, ici aux États-Unis, a repris hier ses attaques publiques contre son ministre de la Justice, Jeff Sessions. Maintenant, il lui reproche de n'avoir pas limogé le directeur par intérim de la police fédérale, le FBI. Le point avec vous, Eric Manirakiza.
Dans son tweet hier, Donald Trump s'interroge pourquoi le directeur par intérim du FBI, Andrew McCabe, était toujours en poste. Le président l'accuse d'être un ami de James Comey, qu'il a limogé, et reproche à l'épouse de M. McCabe d'avoir des liens avec Hillary Clinton, son ancienne rivale. Depuis le 19 juillet, le président américain reproche à Jeff Sessions, son ministre de la Justice, de s'être récusé dans l'enquête sur l'ingérence présumée de Moscou dans l'élection américaine. M. Sessions, pilier de sa campagne, avait omis de rendre publique une rencontre avec l'ambassadeur russe à Washington. Malgré toutes les critiques, Jeff Sessions continue de refuser de démissionner et le président ne l'a pas encore limogé. Le nouveau directeur de la communication de la Maison-Blanche, Anthony Scaramucci, admet qu'il y a clairement un problème et promet un dénouement pour bientôt.
Et puis un cessez-le-feu a mis fin ce jeudi au combat entre le Hezbollah libanais et une ancienne branche d'Al-Qaïda à la frontière syro-libanaise. Selon l'agence de presse libanaise ANI, cette décision est le fruit d'un accord entre les deux parties négocié par le directeur de la Sûreté générale libanaise, le général Abbas Ibrahim. Le texte prévoit notamment le retrait des derniers djihadistes de la région. Dans un discours télévisé mercredi soir, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait déclaré que de sérieuses négociations étaient en cours pour obtenir le retrait des djihadistes, affirmant que ces hommes allaient au-devant d'une grande victoire militaire. Point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque. Jean-Roger Bion à ce micro. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.